Je pense qu'aujourd'hui, on va pas se permettre de tuer l'ours avant de faire le championnat.
Je pense qu'on va pas brûler la peau de l'ours hein, avant de l'avoir vendu.
C'est une position que j'aime bien aussi, donc voilà. C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot, Nicolas Villas.
Ravi d'être avec vous, soyez les bienvenus dans l'after, nous sommes ensemble pendant 2 heures, c'est parti donc pour 2 heures de bonheur avec nous ce soir dans cet after. Alors déjà au programme, retour bien entendu sur les affiches de la 36e journée de Ligue 1 de ce samedi, course au maintien complètement folle, voilà, alors ça on va y revenir dans le détail dans quelques instants. On va revenir également sur la victoire du Paris Saint-Germain, 2-1 à Angers cet après-midi, bon le PSG qui a plus rien à jouer, mais Tourelle qui a refait une sortie sur l'éventuel capitanat de Neymar. On vous dira ce qu'il a déclaré tout à l'heure Tourelle. Enfin d'ailleurs c'est pas un secret hein. En gros il a dit qu'il a pas le profil pour être capitaine. D'accord, pas d'accord. On vous invite à voter sur le compte Twitter de l'After. Pour l'instant c'est complètement déséquilibré. Vous êtes plus de 70% à être d'accord avec Thomas Tourelle, à dire voilà, il a pas le profil pour être capitaine.
Vision franco-française.
Je ne sais pas. Vous avez reconnu sa douce voix bien entendu, Jonathan McCarthy, bonsoir.
Salut les amis.
Ça va?
Toujours.
Kevin Diaz est avec nous également, habitué du samedi soir maintenant.
Bonsoir. Bonsoir
Starter à tous. The Night Fever. Yes. Et l'Ajax c'est plus là, t'en fous, t'as tes samedis de libre maintenant.
Ouais, ouais, c'est clair.
Ils en sont en championnat d'ailleurs, parce que c'était chaud avec le PSV là.
Bah, l'Ajax il joue demain en championnat contre Utrecht. Il reste deux matchs.
C'est pas mal ça. C'est serré encore là-bas?
Ouais, il reste deux matchs, ils sont tous les deux à 80 points.
Ouais, c'est pas mal ça. Je donne quelques résultats également. Sachez qu'en Italie, l'Atalanta s'est imposée 2-1 face au Genoa. L'Atalanta qui conforte sa quatrième place. On y reviendra dans la semaine d'ailleurs avec Simone Rovira là-dessus. La Lazio qui s'est imposée 2-1 face à Cagliari. Ça joue entre la Fio et Milan. 1-0 pour l'instant pour Milan face à la Fiorentina. En Allemagne, on sera avec David Lortolari tout à l'heure pour revenir notamment sur le 0-0 entre le RB Leipzig et le Bayern et la victoire de Dortmund 3-2 face au Fortuna Düsseldorf. Petit résultat anglais, on sera en Angleterre. Demain, il y a la dernière journée. Le titre se joue entre Manchester City et Liverpool. On sera avec Julien Laurence. Sachez qu'il y a les playoffs aller du Championship, c'est-à-dire pour la montée en Première Ligue la saison prochaine. Match aller, Aston Villa a battu West Brom 2-1. Et le Leeds de Marcelo Bielsa, si cher au cœur de Jonathan McCarthy, s'est imposé 1-0 face à Derby.
Très maîtrisé comme victoire. Vraiment, voilà. Et en plus, il n'y avait pas Bamford, donc on attend le match retour avec impatience.
Il y a également du rugby ce soir, barrage de Pro D2 entre Bayonne et Nevers. Paul Lafitte est au stade Jean Daugé. Comment il va? C'est ça, c'est stade Jean Daugé.
Ouais, c'est ça. Salut Nico.
Ouais,
salut,
je commence à réviser moi Pro D2, tu vois là.
Ça se passe bien. Une quinzaine de degrés au Pays Basque, un ciel bleu et un aviron bayonnais.
Ciel bleu à 22h.
Eh oui, un ciel bleu dans l'enceinte de Jean Daugé. L'aviron qui mène 22-12. Nico, l'info de ce début de partie, c'est le carton rouge pour le capitaine de Nevers qui handicape évidemment les visiteurs qui sont à 14 contre 15, qui étaient à 14 contre 15 Bayonnais, car les Bayonnais viennent de prendre un carton jaune, donc les débats sont en train de s'équilibrer, mais Bayonne a toujours ce matelas assez confortable. Pardon ?
Il n'y a pas une petite baston un peu en fond, le très intéressant.
Ça a été un petit peu chaud entre deux joueurs et carton jaune donc de Maxime Chalon, l'arbitre de cette partie pour un joueur le trois quarts centre Barthélémy côté aviron bayonnais. Donc les joueurs de Nevers vont tenter, mais pour l'instant c'est les locaux, les ciels et blancs qui mènent donc à Jean Daugé 22-12. On joue la 46e ici en deuxième mi-temps.
Merci beaucoup Paul. Le demi-finale également du Masters Mill de Madrid, c'est du tennis. Tsitsipas face à Nadal, qui dit tennis dit Eric Salio, particulièrement heureux ce soir Eric. Parce que le stade Malherbe, on va y revenir dans quelques instants, s'est imposé. Bonsoir Eric.
Bonsoir, oui mais le but dijonnais me chagrine un peu, c'est dommage. Ça aurait été la soirée.
T'es jamais content. Sans le...
Bah écoute, c'était tellement délicieux jusqu'à la 95e ou 16e, je sais pas. Mais écoute, j'ai une pensée pour les gens qui habitent sur le rocher monégasque. Et
ah oui, ça sent pas bon. Ouais.
Pas très bien là.
Ouais, tous les tennis man.
Rigoler. Trois partout.
Exactement.
Non, c'est oui, vrai, ils sont en Suisse, c'est vrai. C'est moitié-moitié.
Bah, les Français, ils vont pas aller à Monaco, ils payent des impôts.
Les coureurs de Formule 1 aussi. Sûr, non, tu te maries, hein, tu te débrouilles. Il
y a énormément de tennisman qui habitent en principauté, effectivement. Dont le numéro 1 mondial, Novak Djokovic.
Trois partout entre Rafa Nadal.
Trois partout entre Rafa Nadal et Stefanos Tsitsipas. Et ce qui est bien, c'est que le jeune grec, il accepte le bras de fer, oui. Il entre gaiement dans la baston, c'est très physique et pour l'instant, il tient, il résiste à un excellent Nadal qui a eu des balles de break tout à l'heure, mais il a du mal à prendre la dimension, à prendre la mesure de Stefanos Tsitsipas. Le 3 partout, Nadal est au service et il y a 15-40. Tiens donc.
Merci beaucoup Eric. Je vous rappelle les résultats de ce samedi avant d'écouter les 3 points de Kevin et de Jonathan. Le Paris Saint-Germain cet après-midi s'est imposé 2-1 à Angers, 0-0 entre Amiens et Toulouse. Match important dans la course au maintien. Autre match important pour le maintien, la victoire de Dijon 2-1 face à Strasbourg. Nîmes s'impose 1-0 face à Monaco. Et puis Caen est allé gagner 3-2 face à Reims. Autre résultat également de cette 36e journée. Nice-Nantes, un but partout. On débute cet after donc par les 3.
L'important c'est l'essentiel.
Le plus important c'est les 3 points.
Et souvent l'essentiel c'est le plus important.
Tiens, on commence par toi Kevin.
Bah moi les 3 points c'est quand même Monaco, attention pour mon premier point, parce que on sent vraiment que les Monégasques sont sur une pente très dangereuse. Ça sent vraiment pas bon pour notre co-compatriote Leonardo Jardim, parce que défensivement c'est très faible et offensivement ils sont peu inspirés. Le deuxième point c'était Caen au contraire. 10 points sur les 12 derniers possibles, c'est quand même très bon. Donc bravo à l'entraîneur et bien sûr à son adjoint. Voilà. Ouais. Et à l'entraîneur et à son adjoint Roland Courbis. Et aussi le capitaine, hein, Fache, qui est vraiment un joueur qui est même un leader sur le terrain avec du caractère. Et le troisième point, c'est Neymar, la balade de Neymar. Voilà, le Brésilien qui se balade, qui voilà, se promène tranquillement dans cette Ligue 1, qui pour moi est loin d'être à son niveau et ça fait presque peine à voir.
Alors, on reviendra tout à l'heure, d'ailleurs, un petit teasing tout à l'heure. On fera un débat, d'ailleurs, sur Neymar après la victoire du PSG 2-1 face à Angers. Les mots, notamment, de Stéphane Moulin à la fin du match en conférence de presse, vraiment très élogieux à l'égard de Neymar. On l'écoutera tout à l'heure. Avant cela, les 3 points de Jonathan Macardy.
Bon, premier point, c'est la lutte pour le maintien qui est totalement folle. Une victoire de Caen qui est méritée parce que Roland et Marcadal ont mis au point ce soir une composition d'équipe avec plus d'ambition que d'habitude et ils ont été récompensés, même ils ont un peu serré les fesses lors des dernières minutes. T'as Dijon qui gagne, on a un truc de malade. Et puis, en fait, quand on regarde le calendrier des équipes, Monaco notamment qui va finir qui se fait finir son championnat contre son ennemi à Nice avant d'avoir affronté Amiens pour un match qui coûtera très cher, donc tu te dis la lutte pour le maintien elle est totalement folle. Le deuxième point, c'est, je rejoins Kevin, focus sur l'AS Monaco qui est totalement à la dérive. C'est une chute qui est lente, qui passe un peu inaperçue mais qui est stable en fait. C'est la stabilité vers la médiocrité, donc défensivement à la rue, offensivement apathique. Donc vraiment Monaco, il y a du souci à se faire. Et le troisième point, et ben c'est les playoffs de championships avec la victoire de Leeds. Donc on attend de beaucoup de l'équipe de Marcelo Bielsa et j'espère que l'année prochaine en première division il y aura un Jean-Marc Furlan et un Marcelo Bielsa, parce que c'est quand même pas mal.
D'accord. Je donne mes 3 points également ce soir. Je vais commencer par Caen également, parce que c'est vrai que Caen, alors il y a encore un mois de cela, on était les premiers à dire ici, au niveau du jeu, c'est terminé. Enfin, il y avait les résultats certes, mais il y avait le jeu qui était vraiment pas là et finalement ils sont en train de se réveiller. Bah, le deuxième, c'est Dijon. Parce que Dijon aussi, c'est vrai que Camboré, on l'a pas mal défoncé, notamment quand il était à Guingamp. Et puis au final, il est revenu à Dijon. Il est en train de ramener quelques petits points également qui peuvent être précieux, même si c'est pas fait pour Dijon. Et puis le troisième point, bah c'est Monaco. Autre équipe également qui est dans la course au maintien. C'est vraiment le truc qui va être sexy jusqu'à la fin de la saison, hein, cette course au maintien. Au-delà des places européennes éventuelles à venir également pour ces équipes. Mais c'est vrai que ça s'annonce assez passionnant, cette course.
Amiens Monaco, là, la prochaine journée.
Ouais.
Ça vaut son pesant d'or. Hein.
Ouais, entre autres. Ouais. C'est vrai qu'il y aura aussi un petit. C'est qu'il y aura un petit Camboré
aussi. Ouais.
Parce que Bordeaux, ils sont pas sauvés, hein, mathématiquement.
Non, c'est clair.
S'ils perdent leurs les 3 dernières journées, et que Caen gagne dans le même temps, et Monaco ramasse des points.
Et le dernier, imagine Nice-Monaco, Nice qui peut envoyer Monaco en Ligue 2.
Ouais.
Ça pourrait être aussi tendu, hein.
On va débuter donc par cette défaite, une de plus pour Monaco à Nîmes. Le seul buteur du match est Ripart à la 9e minute de jeu. 7e match d'affilée sans victoire pour l'AS Monaco. Monaco n'a plus gagné depuis le 5 mars dernier. C'était une victoire à Lille. Alors une victoire 1-0 des Monégasques à Lille. Et c'est vrai que les Monégasques, tu le disais à l'instant, Jonathan, sont en train de glisser tout doucement là.
Bah, c'est surtout quand tu regardes le match, il y a rien défensivement, ils ont été ultra friables. Donc ça, on a l'habitude. T'as Jemerson, je vois bien au milieu de terrain, c'est peut-être c'est mignon, mais il s'est fait. Savanier lui a fait l'amour tout le match. Enfin, tout le milieu nîmois lui a fait l'amour tout le match. Je pense que là, il repart un petit peu en boitant, passez-moi l'expression un peu graveleuse. Mais vraiment, il a été mauvais, mais comme à son habitude. Et puis moi, ce qui me choque un petit peu, c'est que au début, quand Jardim est revenu, il y avait cette espèce de, je sais pas, c'est comme on a dit avec Guingamp, peut-être un espèce de choc psychologique. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est l'apathie de la ligne de 3, là, Golovin, Ronny Lopez et compagnie, quoi. La ligne de 3 derrière Falcao. À un moment, ça marchait bien, ça. Tu te disais, c'est un peu sexy, il y a du ballon, t'as des joueurs de qualité, mais tu te rends compte au fil du temps que ça s'est effiloché et que maintenant, c'est le néant.
Alors, je vous rappelle quand même le classement, hein, le bas de tableau de la Ligue 1. Dernier Guingamp, alors qu'il jouera demain face à Rennes, avec 25 points. Avant-dernier Dijon, avec 31 points. 18e et barragiste Caen, avec 33 points. 17e Monaco avec 33 points également, ça joue à un but près, hein, la différence de but entre Monaco et Caen. 16e avec 35 points, donc 2 points d'avance sur Monaco et Caen, on a Amiens. 15e Toulouse avec 38 points et 14e Bordeaux qui compte un match en moins, qui compte 38 points également. Comment t'expliques toi ce qui se passe à Monaco là?
Ouais, je pense que ce qui se passe à Monaco, c'est explicable par le... On va faire l'historique rapidement, mais je ne sais pas si on se rend compte quand même que Monaco a débuté la saison avec Jardim, puis a eu un certain Thierry Henry, puis un retour de Jardim, a changé de président, a eu dans son effectif peut-être 30 joueurs qui ont participé aux différentes rencontres. Pour moi, le football de haut niveau, le football à tous les étages, mais surtout le football de haut niveau, c'est comme la Formule 1. C'est une mécanique de précision. Déjà, quand les équipes qui ont tous les réglages, qui sont au point, elles sont pas sûres de gagner les matchs, elles sont pas sûres de finir en haut du classement. Alors, les équipes comme Monaco, qui ont eu des réglages, on peut même plus parler de dysfonctionnement, là, c'est quelque chose qui est quasiment inqualifiable. Mais c'est impossible. Et on voit aujourd'hui cette équipe qui, même si, comme a dit Jonathan, il y a eu un petit choc psychologique avec le retour de Jardim, et également.
Il y a eu l'arrivée de joueurs aussi, hein.
Ouais, et puis Jelson Martins qui était on fire.
Mais ça, Nico, tu nous avais dit, hein, que Martins, en cours de saison, il était capable de disparaître aussi, quoi.
Non, mais c'est pas le seul, mais disons que la régularité est pas encore son
fort. Il y a une action qui symbolise un peu ce match autour de la 65e. Il y a 1-0 pour les Crocos. Il y a une contre-attaque. Vinicius avec Martins et Ronny Lopez, ils sont à 3 contre 1. Ouais. Et Vinicius, il s'emmêle les pinceaux. Et du coup, il perd le ballon. Alors que là, c'était vraiment l'occasion, alors que c'était un temps fort de Monaco, pour vraiment revenir dans ce match et pourquoi pas le gagner.
Après,
c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui tourne pour
mais
eux.
Mais aussi après, purement dans le jeu, il y a quelque chose qui est frappant dans cette équipe, c'est qu'ils n'ont pas de défense. Enfin, il n'y a aucun des défenseurs qui fait une bonne saison. Tous font une saison même catastrophique. Naldo, il a rien apporté. Glick, il n'y a même pas de mots pour décrire le niveau de ses performances. Les deux latéraux, Sidibé, il a toujours la tête un petit peu ailleurs, j'ai l'impression. Et Ballo, c'est pas forcément une réussite. Et puis, quand tu vois cette défense qui est ultra friable et protégée par Jemerson, tu te dis,
Surtout que cette défense, elle est protégée, en dernier rempart.
La sérénité, quoi.
J'allais dire en dernier rempart, mais par un certain Benaglio. Non, mais c'est pas possible.
En même temps, Jonathan blessé.
Mais
tu veux faire son match, Benaglio.
C'est pas possible.
Je suis d'accord. Entre les deux, Benaglio, je pense qu'il est meilleur. Il est meilleur que Subasic.
Je vais te dire. Dans une équipe de foot,
Benaglio.
Au niveau, mais même à tous les niveaux, même le championnat du dimanche matin, ce que vous voulez, le gardien, ça reste la béquille de l'équipe. C'est-à-dire que si déjà tu penses
pas le number one.
Si tu penses à ce niveau-là, peu importe celui qui joue, c'est le number one aujourd'hui. C'est celui qui joue. Si tu penses que ton gardien à chaque frappe, t'as l'impression qu'il va y avoir but, même si c'est pas le cas dans les faits. Ben voilà, cette équipe déjà dès la base, le gardien elle est friable. Alors Subasic, on sait qu'il a très peu joué cette saison, donc on est obligé de juger ceux qui ont joué.
Meilleur, hein.
Non, pour moi.
Sur la saison, sur l'état de forme comparé.
Pour moi, Benaglio, il a pas de niveau de meilleur.
Après, ce qui est dommage pour Subas, c'est qu'il avait eu un début de saison qui avait été compliqué au-delà des blessures. Subasic, il revenait bien et il s'est blessé au moment où il revenait bien.
Il y a aussi ça, ouais. Mais t'as raison, hein. Benaglio est pas souvenir, mais vraiment cette défense. Et c'est même le système défensif que je trouve un petit peu boiteux. J'ai du mal à comprendre comment il s'organise à la perte de balles. Le positionnement de Jemerson est toujours un petit peu aléatoire. T'as l'impression que c'est pas un milieu de terrain dans l'esprit, tu vois, il a toujours un temps de retard dans les phases de transition.
Il y en a un que j'ai vu à peu près correct. C'est pas parce qu'il est portugais, mais c'est Adrien Silva.
Il est bon depuis qu'il est arrivé.
Ouais,
il surnage un petit peu dans
son équipe. Il leur manque clairement Fabregas, qui est le joueur d'expérience, qui même si il a plus ses jambes de 20 ans, arrive quand même à réguler le jeu et pour cette équipe de Monaco, là, elle peut faire la différence. Là où elle peut faire la différence dans cette Ligue 1, c'est dans la maîtrise technique qu'ils peuvent avoir une fois qu'ils mènent.
Mais ils l'ont jamais eu depuis le début de la saison.
Non, mais ils l'ont eu quelques fois avec Adrien Silva et Fabregas.
Franchement, je les compte pas sur les doigts d'une main. Jardim est quand même, il y a le mercato, c'est quand même en janvier. Et tu comptes sur les doigts d'une main, depuis le début de la saison, le nombre de matchs qui étaient à peu près réussis. En fait, moi, j'adore Jardim. C'est extraordinaire ce qu'il a fait à Monaco. Il n'y a pas de souci. Mais depuis qu'il est arrivé, il n'a pas du tout la maîtrise sur cette équipe.
Non, mais là, je pense qu'on aurait pu mettre n'importe qui, Jardim, Tuchel, Mourinho, cette année, avec tous les dysfonctionnements qu'il y a eu. Honnêtement, le bateau est beaucoup trop percé pour arriver à bon.
Mais il y a des joueurs de qualité.
Tu parlais tout à l'heure de la mécanique, etc. C'est vrai que ils étaient quand même sur une route qui était pas du tout sinueuse. Les Monégasques, depuis qu'ils sont remontés en Ligue 1, donc depuis 2013-2014, au pire, ils avaient avaient fait troisième de
Ligue 2. Bien sûr.
Et ils avaient été champions de Ligue 2 en 2012-2013. Ils font deuxième, troisième, troisième, champion, deuxième la saison dernière. Et c'est vrai que là, pour le coup, ils sont en train de jouer un truc qu'ils n'ont pas l'habitude de jouer, hein, que ce soit les joueurs, l'entraîneur, les dirigeants.
Non, mais c'est cette saison, ouais. C'est une catastrophe.
Essayons juste de nous rappeler, l'analyse qu'on pouvait avoir au mois de février. En mois de février, on se disait, ouais, Monaco, avec des bons joueurs, ça commence à prendre forme, ils vont se maintenir tranquillement. Mais il y avait beaucoup de gens qui pensaient même qu'ils pouvaient envisager l'Europe, quoi.
Ils ont eu encore des absences.
Il y a beaucoup de gens qui pensaient qu'ils pouvaient envisager l'Europe, mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a été juste berné parce que nouvel entraîneur, joueurs qui arrivent, qui sont un petit peu en feu à l'image de Gelson Martins. Mais franchement, cette équipe, dites-moi comment elle joue, dites-moi ce que Jardim m'a apporté.
Cette équipe, Jonathan, tu disais qu'on commençait à être enthousiaste, mais ces joueurs-là, ils sont plus là. Subasic, il est pas là.
C'était surtout mal aligné la ligne d'attaque.
Non, mais
c'était
Martin, quand même.
C'était Falcao.
Ouais, mais si quand
c'était,
même.
C'était le retour de Lopez.
Dans la saison, globalement, il y a un truc qui mentalement déconne à Monaco.
Mais cette équipe déconne parce qu'elle n'arrive pas à avoir un 11 titulaire sur 5-6 matchs d'affilée.
Non, mais même, je veux dire, le match d'aujourd'hui.
Il y a des joueurs qui n'ont pas le niveau.
Non, mais au-delà de ça, aujourd'hui, tu le vois sur certaines attitudes, aussi bien offensivement, tu te parlais tout à l'heure de Vinicius. Enfin, les mecs font pas les bons choix, tu sens que ça cogite, quoi. Et défensivement.
Mais Vinicius, à la base, c'est un remplaçant, c'est ce que je te dis, Nico. À la base, c'est un remplaçant. Qui est là, qui est comme ça a été dans la première partie de saison des U17, des U19, qui étaient propulsés en Ligue des Champions avec Monaco, mais qui n'avaient objectivement pas le niveau, sans être méchant avec eux.
On accueille Mathieu, supporter de l'ASM, qui est en direct avec nous dans l'after. Il a composé le 32-16 et il est avec Kevin Diaz et Jonathan Macardy. Salut Mathieu.
Salut les amis.
Salut Mathieu.
Mathieu, je vais te poser une question que je t'ai posée il y a quelques semaines déjà. On se disait on va plus te la poser cette saison, mais est-ce que tu te remets à flipper alors?
Bah flipper, comment te dire? Je peux plus flipper à partir du moment où toute la saison, tous mes samedis soirs, je les passe déjà devant ma télé en train de me dire ce match-là on va le perdre, ce match-là on va le perdre, ce match-là on va le perdre. Tu fais ça toutes les semaines en fait. Enfin, moi perso, depuis le début de la saison, je suis dépité quand je vois mon équipe jouer. Il y a aucun mental. Je regarde parce que je suis supporter depuis tout petit. Je suis à fond derrière mon club depuis tout petit. Mais je sais que c'est déjà voué à l'échec à chaque match en fait. Le match contre Saint-Etienne, quand on marque, je me dis « Oh, c'est dommage, on a marqué trop tôt, donc on va se prendre des contres et on va se prendre la rousse. » Là, ce soir, je me suis dit « Bon, ils ont rien à jouer. » Je me suis dit peut-être que... Mais non, parce que Nîmes, bah, c'est une équipe qui joue bien au football. Et nous, on peut pas bien jouer contre une équipe comme ça parce qu'on n'a pas le mental. Le système de jeu de Jardim, ce soir, une fois de plus, avec un Falcao seul devant, c'est pas possible. Je veux dire, la première mi-temps... vous avez vu, hein, comme moi, les actions, on n'en a pas eu. Enfin, peut-être une, et encore...
Mais il était tout seul, il y avait trop d'espace entre lui et sa ligne de milieu derrière, quoi.
C'est horrible, je te jure.
Golovin, c'est pas ce que Golovin sait pas se placer. Il a du mal à trouver sa place.
Mais c'est surtout, tu fais un milieu de terrain renforcé avec Jemerson.
Ouais, en plus, ouais.
Moi, c'est surtout ça que j'ai du mal à quelqu'un.
Ouais, non. Mais ce que je veux dire, c'est que Falcao, j'adore ce joueur. Enfin, franchement, c'est un bon buteur, mais seul devant, c'est un mec stérile, et c'est normal.
Contrairement aux autres.
Comment?
Encore, il fait les efforts. Tu sens que c'est le seul qui essaie quand même de remuer le cul. Hein.
Et puis en plus, je sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais le problème c'est que ce soir, en tout cas, il joue contre une équipe qui est l'opposé de l'AS Monaco, c'est-à-dire plus petit budget de Ligue 1, avec que des joueurs qui sont ensemble quasiment depuis la Ligue 2. On voit vraiment que c'est une bande de potes qui sont, attention, de bons joueurs de foot. Eux, mentalement, sont au taquet dans un stade chauffé à blanc, enfin, plutôt chauffé au rouge, mais voilà, qui est vraiment derrière son équipe. Et en fait, voilà, c'est l'opposé de l'AS Monaco. Un stade qui vit avec son équipe, des joueurs qui se battent pour leur maillot, des joueurs qui se battent peut-être pour la prime de match parce qu'ils en ont, entre guillemets, presque besoin à la fin du mois. Tu vois ce que je veux dire? C'est complètement l'opposé de cette équipe de l'AS Monaco, de joueurs, voilà, piocher un peu par...
Mais c'est même pas, je savais même pas sénateur, ça fait des joueurs qui sont cramés, Nico. Tu regardes, les défenseurs, ils sont cramés.
Pas tous. Ouais, pas tous.
Si, Glick, Jemerson, Naldo, ils sont cramés, les gars.
Attends, tu vois le 11 de départ, Balotouré, bon, ok, t'en as ça.
Horrible.
Non, mais Gelson, Adrien, Golovin, Rony Lopez, tu vas pas me dire que c'est des joueurs.
Je te parlais surtout
derrière. Ouais, mais dans ce système-là, ils peuvent rien faire, ces mecs-là. Enfin, tu débordes, tu centres, t'as qu'un mec dans la surface, c'est Falcao, il est pris par 4 défenseurs. Je veux dire, et c'est à chaque fois les mêmes actions, et à chaque fois, Jardim s'en rend pas compte tout de suite, et après, il fait rentrer Vinicius, qui lui, libère énormément d'espace pour Falcao, parce que c'est un très bon pivot. Mais c'est trop tard. On a déjà perdu le match avant le coaching. Mais quand est-ce qu'il va faire jouer enfin moi je comprends pas pourquoi il met pas deux attaquants quoi. Il faut les gagner les matchs, il faut pas chercher
T'es obligé. Enfin, ouais. Et en plus surtout qu'il avait tu joues ce soir avec un milieu renforcé mais tu t'es fait bouffer au milieu de terrain pendant tout le match.
Mais complètement, mais oui, Savagnier et tout ça là.
Et enfin, en plus enfin et ses joueurs hein, tout ça, hein, Ferry, Savagnier, Bobichon.
C'est ils ont là une bonne qualité de passe, il a régalé tout le match hein Savagnier.
Nîmes a encore fait un très bon match.
Mais Savagnier c'est il a un jeu long qui est vraiment extraordinaire.
Ah ouais.
Non, c'est incroyable.
Moi j'aime bien même Tube,
ouais,
il disait
Tube. Très bien, ouais. Ferry il revit à Nîmes. Ça a jamais été un grand joueur, ça le sera jamais, mais c'est un très bon joueur de Ligue 1. Donc non, c'est une équipe quoi, s'il a beaucoup de qualité.
On remercie Mathieu de nous avoir appelé. On accueille Sofiane, supporter de Nîmes, justement, qui est en direct avec nous. Salut Sofiane.
Salut l'After, salut Nico.
Et
salut,
voilà Sofiane. Une saison qui est sympa pour les Crocos. Saison peinard. Nîmes qui est 8e ce soir, 52 points. Petite victoire 1-0 face à Monaco. Bah, tu m'étonnes, elle est magnifique.
Ils vont finir 6e.
Elle est magnifique. On vient de taper Monaco quand même l'année dernière. On monte en Ligue 1. On se dit bon, on joue le maintien et on est 8e. On est 8e.
Vous pouvez finir 6e encore. Hein.
Pardon ?
Vous pouvez encore finir 6e.
Hein. On peut finir 6e. Mais l'ambiance au stade, mais à chaque match, c'est hallucinant. Cette année, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont venues nous taper aux Costières. Et encore ce soir, l'intensité qu'il y avait. Alors Monaco, on a sûrement dû savoir à la mi-temps que Caen menait 3-1 contre Reims, mais c'était une équipe liquéfiée. Là, Monaco, ça sent la Ligue 2. Hein. Ça sent la Ligue 2.
Bah, en plus, tu regardes le calendrier, c'est compliqué. Hein. Le calendrier de Monaco, il est pas génial. Hein.
Bah, ils ont un match. Bah, là, ils jouent à Amiens. Ils vont jouer à Amiens à domicile et ils terminent à Nice.
C'est voilà. Ça. Hein. C'est un match près avec qui va valoir beaucoup de points contre Amiens, un concurrent direct pour la descente.
Bah, il y a deux points d'écart.
Et t'as le derby pour terminer. Nice, ils peuvent les envoyer en Ligue 2. Ils se gêneront pas. Ça fera une motivation supplémentaire. Donc, franchement,
après pour Nîmes,
très compliqué.
Pour Nîmes, on sait que la première saison d'un promu, c'est souvent...
Ils sont dans la continuité, dans l'ensemble.
Voilà, c'est souvent la meilleure. Ouais. Par contre, la saison de la confirmation, avec peut-être des joueurs qui pourraient être amenés à partir, parce que voilà, on sait que financièrement, c'est difficile de garder certains éléments lorsqu'ils font une belle première saison en Ligue 1. Donc, la saison, on va dire, acte 2 des Crocos nîmois, ça va être la plus importante. J'espère que les dirigeants sont armés pour répondre.
C'est ça, en fait, le vrai défi, parce que on sait que c'est un club qui a pas de cellule de recrutement, c'est une particularité dans l'élite. C'est un peu du travail artisanal, mais il y a quand même un signe encourageant, c'est qu'ils arrivent quand même à attirer 2-3 joueurs. On l'a vu, ils ont quand même pris Jordan Ferry cet hiver.
C'est un recrutement malin.
Voilà, ouais. Et je pense que cette envie, tu vois, t'as le stade avec l'ambiance, plus le discours de l'entraîneur qui est un mec qui a la tête sur les épaules et qui est un bon entraîneur, qui peuvent jouer en ta faveur pour limiter la casse en termes de départ.
Ouais, mais le recrutement malin, ça marche sur un recrutement en hiver, sur 1-2 profils. Maintenant, si tu perds 3-4-5 joueurs importants, faut pas se rater sur le recrutement malin.
Il faut des pierres angulaires à chaque poste.
Voilà.
Après, le recrutement.
Est-ce que Savagnier pourrait partir, à ton avis?
Non.
Et moi, j'espère pas. Après, j'ai eu des échos comme quoi, peut-être.
Il veut pas quitter la région. Ouais, c'est quoi, j'allais dire. Montpellier, typiquement.
C'est Montpellier ou rien. Non, mais c'est Montpellier ou rien. Il veut pas quitter la région.
Oui, il aime bien, mais. Non.
Tu sais que il a déjà eu des offres bien avant quand il était en Ligue 2 pour des bons clubs de Ligue 1. Il a jamais voulu partir.
De Turquie au mercato hivernal.
Ouais, mais là.
Jonathan
disait qu'il a déjà eu des offres, peut-être. Mais l'exposition que tu as quand t'es en Ligue 1, c'est pas la même que quand t'es en Ligue 2. Et les offres qu'il aura.
Tu sais qu'en Ligue 2, il était aussi
plus
bon,
intéressante pour lui.
En Ligue 2, il était, t'as raison, hein, mais en Ligue 2, il était tout aussi bon.
Non, mais c'est un truc de malade.
Ça fait 3 ans qu'il a un niveau.
C'est pour ça que je te dis
qu'il a ce niveau-là.
Pour en avoir un peu l'expérience, Jonathan, lorsque t'es un bon joueur de Ligue 2, ok? Lorsque t'es un bon joueur de Ligue 2, t'auras toujours beaucoup moins d'offres qu'un joueur moyen de Ligue 1.
Et je pense que s'il part, ça viendra plus du club qui pourra pas se permettre de passer à côté d'une très belle somme, tu vois, en indemnité de transfert, que lui, j'ai vraiment l'impression, dans ses interviews, il donne vraiment l'impression de privilégier le fait que ses enfants, sa famille, etc., quoi.
Merci à Sofiane d'avoir été avec nous. Tiens, on va aller faire un petit détour par le tennis demi du Masters 1000 de Madrid avec Eric Sanio. Tsitsipas face à Nadal et le grec met l'espagnol en difficulté, Eric.
Ah oui, le Grec mène une manche à zéro, 6-4, c'est un peu la stupeur ici à la Carra Magica, mais c'est tout à fait logique parce que le Grec est ultra agressif, il a beaucoup de réussite au filet, et puis surtout il prend sa chance, on sent que c'est un môme qui n'a peur de rien, mais c'est le caractère de Stefanos Tsitsipas qu'on avait pu apprécier sur les antennes d'RMC Sport lors du tournoi de Marseille. C'est un garçon qui a peur de rien, qui a un peu le melon d'ailleurs, c'est ce qui se dit, mais voilà, mais pour l'instant ça paye, 6-4 face à un Rafa Nadal qui va devoir sortir le grand jeu, puis sûrement changer des choses sur le plan tactique, sinon ça va être une nouvelle défaite après Monte Carlo et après Barcelone, et là on va déclencher le plan sec, hein, ce sera normal, hein.
Et dis-moi, il a le melon, Canada, mais sur l'échelle Roten, ça donne quoi, tu penses?
Ah non, mais Roten, c'est au-delà de l'irréel.
Ah ouais, c'est hors catégorie.
Il est melonné comme il faut, Tsitsipas, tu vois. C'est-à-dire qu'il a conscience de ce qu'il vaut. Alors que Jérôme, non, d'ailleurs, c'est du cinquième degré, je crois, d'ailleurs. Enfin, j'espère. 6-4, Nadal. 6-4, Tsitsipas.
Merci beaucoup, Eric. Il y a aussi du rugby ce soir. Barrage de Pro D2 entre Bayonne et Nevers. Paul Lafitte.
Ah ouais, Nico, ça se passe toujours bien pour Bayonne qui mène désormais 32-19. Un gros quart d'heure à jouer ici à Jean Daugé. Et pour l'instant, donc, les joueurs de Yannick Bru rejoindraient Oyonnax en demi-finale de Pro D2. On rappelle que Brive avait terminé la saison régulière premier et attendront son adversaire. Ce sera Vannes ou Mont-de-Marsan. Deuxième quart de finale de barrage demain. Donc pour l'instant, Bayonne à un pied et demi en demi, mène 32-19, 13 minutes à jouer à Jean Daugé.
Merci beaucoup. Nous reviendrons dans quelques instants avec Jonathan McCarty, Kevin Diaz et vous au 32-16 sur le hashtag RMC Live, l'application Direct Studio. Vous le savez, on va continuer d'analyser cette défaite de Monaco à Nîmes 1-0 dans quelques instants. On vous attend pour parler de Caen également, vainqueur 3-2 face à Reims. Autre match important également pour le maintien, la victoire de Dijon 2-1 face à Strasbourg. À tout.
RMC. L'afterfoot, Nicolas Villas.
Avec Jonathan McCarty et Kevin Diaz et vous également au 32-16 sur le hashtag RMC Live. On vous rappelle les affiches de la 36e journée de Ligue 1 de ce samedi. Le PSG, on en parlera tout à l'heure, s'est imposé 2-1 face à Angers, 0-0 entre Amiens et Toulouse. Dijon s'impose 2-1 face à Strasbourg. Nîmes est allé gagner 1-0 face à Monaco, 1 partout entre Nice et Nantes. Et puis Caen a battu Reims 3-2. On va terminer avec ce fameux Nîmes-Monaco. On va accueillir Julien, supporter de Monaco, qui nous a appelé au 32-16. Salut Julien.
Salut l'after.
Salut Julien.
Salut.
Tu fais quoi dans la vie, Julien?
Je fais plusieurs choses dans la vie, mais principalement banquier. Enfin, banquier.
Et t'es supporter de qui?
Pardon? De Monaco.
Et t'habites à Monaco ou pas?
J'ai habité au-dessus de Monaco, maintenant je suis à côté d'Antibes, du côté d'Antibes.
Ah, ouais, la vie nocturne est un peu moins marrante quand même.
Ouais, c'est franchement, je préfère vivre à Antibes que d'être à Monaco, je vous le dis.
Et pour sortir le soir, c'est mieux d'être à Monaco.
Pourquoi, Julien?
Parce que c'est beaucoup mieux. Enfin, il y a plein de raisons qui font que c'est mieux d'être à Antibes, croyez-moi.
C'est moins cher?
C'est pas une question de tarif, question d'ambiance, de sécurité, même, enfin, c'est pas sécurité, mais ambiance, de vie, enfin, il faut
Qu'est-ce que c'est beau le vieil Antibes? Que je veux dire.
Pardon?
Qu'est-ce que c'est beau le vieil Antibes?
Oui, il faut aller à l'Obstore le soir, c'est sympa, il y a de l'ambiance.
Bah, qu'est-ce que c'est beau aussi, la faune au Twiga, passer minuit?
On va parler un peu football, les gars, peut-être.
Alors, t'as quoi à dire, toi? T'es dans quel état d'esprit, toi, ce soir, après la défaite de Monaco? On rappelle, Monaco, 17e à égalité de points avec quand on va
dans un état d'esprit inquiet, on va dire, parce que franchement, quand je vois comment ça s'est passé ce soir, c'est un peu le reflet de toute la saison, quoi. Hein. On est un peu impuissant devant les cages et vraiment très fébrile en défense. Donc, je pense que c'est un bon résumé de la saison. Et honnêtement, j'avais vécu la descente en Ligue 2 il y a quelques années de ça. J'ai peur de revivre encore ça cette année. Et après, est-ce que ça va être mieux descendre pour mieux remonter derrière? Et c'est compliqué à dire quand ça avec le changement d'entraîneur qu'il y a eu. Enfin, c'est le Monaco a fait complètement n'importe quoi cette saison. Ouais. Et je pense qu'il faut vraiment essayer de repartir sur des bonnes bases.
Je vous souhaite pas de descendre en D2 pour repartir sur des bonnes bases quand même. Hein.
Non, mais... j'ai envie de te dire que ça serait vraiment. Après, on va me dire ouais, c'est pas un vrai supporter, qui parle machin, mais. Repartir l'année prochaine en Ligue 1 pour avoir une saison comme cette saison.
Non, attends. Julien, ce que ça serait, moi je pense que ça serait très grave pour Monaco de descendre en Ligue 2. Après, la première
chose. Ouais, mais c'est ce qu'on disait.
C'est pas du tout le même contexte. Là, alors, ce qu'il faut dire pour commencer, c'est que Monaco mériterait de descendre en Ligue 2. Ils ont fait n'importe quoi dans la gestion
comme
de la saison.
Mais comme d'autres mériteraient.
Plus que d'autres.
Attends, tu vas me dire que quand ils ont une gestion qui a été intelligente l'été dernier, etc.
Exactement ce que j'allais dire. Voilà.
plus que d'autres, parce qu'à l'instar de clubs comme Caen, qui ont eu des fortes turbulences en termes de gouvernance, ça s'est reflété sur leur gestion du sportif. Ils ont fait n'importe quoi. Kevin l'a très bien rappelé avec les changements d'entraîneur, le retour de Jardim, des choses qui étaient totalement folles. Donc, il mériterait de, juste pour
moi,
ça,
franchement, le discours du, il mériterait de descendre quand on parle d'un championnat avec 38 journées.
Ça serait une conséquence logique.
Non, mais pour moi, c'est de la connerie de dire ça. Le mec qui descend au bout de 38 journées, c'est qu'il a rien fait pour se maintenir, au cours des 38 journées.
Franchement. Voilà. Mais ça serait une conséquence logique. Après, là où je te rejoins pas, Julien, là où je pense que ça serait très grave, c'est que t'es pas dans le même contexte. Quand tu descends, t'as pas encore ce nouvel actionnaire là. Là, on connaît la situation de la gouvernance russe à Monaco. On sait les problèmes qu'a le président avec la principauté. Je pense que ça pourrait vouloir dire beaucoup de choses très négatives. Une descente, ça pourrait vouloir dire une chute de capital. Ça pourrait avoir un impact financier bien plus important que si tu le faisais avec une gouvernance totalement sereine.
Mais Nico, on peut quand même dire que alors c'est vrai que c'est un peu difficile de dire qu'il mérite ou pas de descendre, parce que ça, c'est pas à nous d'en juger, mais quand même.
Non, attends, que tu me dises, s'ils descendent, il n'y a pas de hasard, c'est une chose, mais de dire, ils méritent.
Non, mais est-ce qu'on se rend compte, parce qu'on parle souvent des budgets, en parlant de Marseille, Lyon, voire même le Paris Saint-Germain, dans d'autres sphères, mais est-ce qu'on se rend compte du budget de l'AS Monaco? Est-ce qu'on se rend compte qu'ils ont vendu un seul joueur, 180 millions d'euros il y a un an? Non, mais s'ils descendent, mais c'est plus qu'une catastrophe industrielle, c'est franchement j'ai même pas le mot pour
c'est
décrire
une catastrophe industrielle.
Non, mais ce serait même pire, parce que ce serait, pour moi, ils ont même pas respecté le football, quoi. Tu peux pas descendre après avoir connu une demi-finale de Ligue des Champions il y a deux saisons. Ouais. C'est pas possible.
J'insiste là-dessus.
Ils ont de la chance qu'ils n'ont pas beaucoup de supporters.
Les relations entre l'actionnaire et la principauté qui sont très fraîches, même si là, il y a quelques signes qui montrent que ça va un petit peu mieux. Pour la première fois depuis très longtemps, Ribolovlev a été réautorisé à aller en loge avec le prince. Mais moi, je me demande quel va être l'avenir de ce club-là sur le moyen terme. C'est quel actionnaire? Est-ce qu'il va rester? Est-ce qu'il va se désengager? Est-ce qu'il va vendre? Et je pense qu'une descente en Ligue 2, ça serait vraiment très très grave pour le club vu l'instabilité.
Cette question, on peut se la poser pour plein de clubs. Hein. On peut se la poser à Nice alors qu'ils viennent d'être achetés il y a peu de temps également. Enfin, on sait qu'aujourd'hui, quand des propriétaires arrivent, ils n'ont pas une vision sur 20-30 ans. Tu vois?
Ça, on est d'accord. Mais Nico, tu sais là, c'est pas le même contexte à Monaco et à Nice. Tu sais que pour acheter le club, il y a différentes conditions à remplir et que trouver un actionnaire, c'est peut-être un brin plus compliqué.
Ouais. On remercie en tout cas Julien d'avoir été avec nous l'after. Monaco donc qui est 17e avec 33 points, égalité de points avec Caen. Caen qui est pour l'instant barragiste, ça se joue à un but près. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont une différence de but de moins 19, Monaco. Ouais. Caen qui a une différence de but de moins 20. Ouais. Et encore, ils ont encaissé le but du 3-2, les Canets, en toute fin de match, penalty de Zanelli. Ninga avait marqué le premier pour Caen, égalisation de Doumbia. Fajr, un coup franc merveilleux du Marocain. Ouais. Gilbert ensuite, et donc ce penalty de Zanelli. Et mine de Caen. Quatrième match sans défaite, 3 victoires, 1 nul sur les 4 derniers matchs pour Caen, qui défensivement va bien. Ils sont en train de se relancer, hein, les Canets. Et en plus, ça joue.
En fait, c'est ça, ça joue. C'est dans... oui, rappelons-nous de la purge du relâche dernier contre Guingamp, où ils n'ont rien proposé du tout. Non, là, franchement, Roland a fait des choix qui ont été très très intéressants et qui ont été audacieux dans sa composition de départ.
Roland
et Fabien Mercadal, oui, c'est vrai. Et c'est parce que Roland, il est de la maison, et c'est vrai. Donc le duo d'entraîneurs, cette cellule d'entraîneurs bicéphale a fait des choix très intéressants au début de match. Dominguez qui est un joueur quand même un petit peu plus offensif, qui a commencé le match. T'as Raoui qui est quand même un bon technicien, même si irrégulier, manque de physique, mais quand même un joueur de ballon qui était mis d'entrée. Et au final, on a vu autre chose que on lance des longs ballons sur Crivelli et puis on attend. Et au final, c'est récompensé par quoi? Par une équipe qui mène 3-1. Et très bizarrement, c'est ça qui est amusant dans ce match-là, c'est au moment où ils y allaient, on mène 3-1, on va quand même essayer de garder le résultat, il fait rentrer un défenseur, Zahari, pour un milieu offensif en la personne de Raoui, et là, patatras, Caen perd totalement la maîtrise du match, et c'est là où Caen serre les fesses, et à mon avis, il y a une belle trace marron dans le slip à la fin du match, quoi. Donc, voilà.
Le fameux caca-culotte de
Jérôme. Le maillot de Sampaoli.
L'audace a été récompensée, mais on voit bien que, tu vois, au moment où ils ont voulu mettre un petit peu le frein à main, ils ont fait le payer très cher.
Sampaoli, contre qui j'ai déjà joué, quel club? Mais
les pirates là, avec le drapeau tête de main.
Incroyable,
l'ambiance est fou, non?
C'était chez nous, mais
fasciste,
c'est exceptionnel. Ouais. Quel club? C'est Hambourg.
Il y avait beaucoup de supporters qui sont déplacés.
C'est sûr que t'as joué là-bas.
C'était un tournoi amical, tu sais, en début de saison, avec il y avait les supporters, tout c'était magnifique.
C'était combien? C'était déplacé en masse, même pour un match.
Ouais, ouais, je pourrais être 2-3 000, alors que c'était un match amical, tu vois. C'est 2-3 000, j'exagère un peu, mais 1 500.
C'est le seul club d'Allemagne où ils sont vraiment propriétaires du club.
Ouais, ça c'est, on en parlera tout à l'heure peut-être avec
avec l'Orto. Ouais.
Non, mais c'est vrai que cette équipe de Caen, elle fait plaisir à voir parce que bon, dans le jeu, je trouve quand même que c'est encore très limité, ah, mais forcément limité.
Ça va mieux quoi.
Voilà, moi j'aime beaucoup ce capitaine qui dégage Fagre, qui dégage beaucoup de caractère,
bon joueur, hein.
Beaucoup de présence, c'est lui qui va marquer ce coup franc qui est quand même très bien frappé et qui fait du bien à ce moment-là du match. Voilà, je pense que ça fait elle reflète un peu, j'allais dire, son entraîneur ou son co-entraîneur.
Hein, parce que ses entraîneurs.
Voilà, Fabien Mercanage, je pense qu'il avait fait aussi un bon travail, en tout cas sur une partie de la saison avant qu'il y ait un peu trop de remous en interne. Mais voilà, avec l'arrivée de Roland, son caractère, son charisme, on voit vraiment que cette équipe aussi, elle a aussi ce potentiel à être vraiment solide psychologiquement et mentalement. Et on l'a vu cette semaine en Coupe d'Europe, le mental, c'est important.
Voyons ce qu'en pense Benoît, qui est supporter de Caen et qui nous a appelé au 32-16. Salut Benoît.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à toute l'équipe.
Salut Benoît.
Alors Benoît, moi je crois savoir que toi t'as changé d'avis ce soir, c'est-à-dire t'y croyais pas trop il y a encore une semaine, et là tu te dis, bah le maintien c'est peut-être jouable.
Ah, mais j'y croyais pas trop, surtout après la 5-0 contre Saint-Etienne, mais bon, force est de constater que l'équipe a retrouvé du mental. Alors je sais pas pour quelle raison, mais j'imagine que coach Courbis y est quand même pour quelque chose. Et là, depuis, on va dire, 4-5 matchs, l'équipe, elle retrouve, voilà, une envie. Et puis, ce soir, peut-être la première fois de la saison du jeu. C'est vraiment exactement la première fois qu'on voit enfin l'équipe. Alors, est-ce que on avait en face de nous une équipe en première mi-temps de Reims qui était un peu démobilisée? C'est possible.
Ça fait 7 matchs en victoire. C'est vrai qu'ils sont moins bien, les Rémois, là, depuis que, ils ont eu leur
rap, c'est fini.
Ouais. Et puis, j'écoutais votre analyse, sur le fait que, voilà, les Canets ont reculé. Moi, je pense que le tournant du match, c'est la blessure de Chukwunte.
Aussi, ouais.
Alors c'est pas un joueur qui est vraiment voilà très technique devant, mais
il pèse,
un vrai point d'appui. Voilà, il pèse, c'est un point d'appui, et dès qu'il est sorti, on avait plus point d'appui devant.
Il a mis la misère à Abdelhamid et à Angel, hein, parce que il a pas. C'est vrai que techniquement c'est pas fin, mais dans c'est la manière de se positionner, de peser, de faire beaucoup d'appels et puis de mettre l'épaule. Il a été précieux, il a permis de libérer trois joueurs derrière lui quoi.
C'est un peu le Brandao de Malherbe.
Ouais, un petit peu.
Voilà. Alors quand on voit les résultats de ce soir, il y a vraiment un bon coup à jouer parce que la prochaine journée de mémoire, il y a un Monaco Amiens.
Ouais, mais tu joues à Lyon, tu vas à Lyon.
Non mais Lyon, moi je l'oublie, d'accord. Allez, imaginons que je l'oublie, mais j'imagine victoire contre Bordeaux. Contre Bordeaux. D'accord. Donc j'imagine 3 points, donc 36.
36, ouais.
Ouais. Devant nous, on a Monaco 33 et on a Amiens 35. Donc on oblige de toute façon Monaco à marquer 3 points sur les deux derniers matchs. Donc ils vont à Nice et ils reçoivent Amiens. Amiens, ils vont vendre charmement leur peau dans ce match.
Ils sont pas sauvés, Amiens. Ils ont que 35 points là, les Amiennois. Hein. C'est pas encore.
Oui,
fait,
oui,
hein.
Oui, c'est bien. Mais moi, à la limite, je vais te dire parce que Amiens contre, je crois que c'est contre Toulouse la dernière journée.
Non, c'est contre Guingamp. Ce sera contre Guingamp. Qui n'a plus rien à jouer. Voilà.
Donc Amiens, je les vois. Mais honnêtement, l'équipe qui est en grand danger, je crois que c'est Monaco. Bah, parce que Monaco contre Amiens. Amiens va être super chiant à jouer.
Benoît,
je vois pas Monaco.
J'ai fait un petit peu d'essayer de jouer Madame Irma et de faire le classement en prenant en compte les adversaires sur les deux dernières journées. Moi, ça me donne Dijon, donc on peut considérer, même si voilà, qu'ils vont perdre contre le PSG et qu'ils vont gagner contre Toulouse, ça leur ferait 34 points. Quand je te le garde en dernier, Monaco, admettons qu'ils fassent match nul contre Amiens.
Oui. Okay,
ça leur ferait 34, mais je les vois difficilement gagner à Nice. Parce que je pense que Nice, ça va être compliqué.
C'est vrai que c'est complètement con ce qu'on est en train de faire là.
Ça
permet de faire des perspectives.
Non, mais avec la semaine européenne qu'on a vécue et tout, arrêtez, me dites pas que vous savez ce qui va se passer.
Laisse-moi aller jusqu'au bout, tu vas comprendre pourquoi
on va pas comparer la semaine européenne.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il se passe des trucs improbables.
Laisse-moi aller jusqu'au bout, tu vas comprendre pourquoi. Donc admettons qu'ils aient 34 ou 35 points. Et après, quand toi, on va dire que tu joues contre Lyon et que tu joues contre ton dernier match contre Bordeaux, ça peut faire 3 points. Au final, t'as 3 équipes qui ont encore très très chaud aux fesses.
Ah bah bien sûr, oui.
3 équipes.
C'est bien qu'on soit 3 autour de la table plus un auditeur, parce que moi je suis pas d'accord. Moi je pense que c'est Amiens qui finira dans, en tout cas pour la plage de barragiste.
Tu penses pourquoi?
Parce que j'allais dire c'est un peu dans l'ordre des choses au niveau de la structure des clubs. Ouais, mais le calendrier, moi pour moi je vois vraiment, si
aucune chance Kevin.
Voilà, je vais te le dire comme ça. Si Monaco n'est pas capable de battre Amiens, ils ont rien à faire en Ligue 1 l'année prochaine. Voilà. Donc Amiens, moi je pense qu'ils arriveront quand même à les battre.
Amiens, ils ont 35 points.
Difficile.
Amiens, ils ont 35 points.
Non, mais si Monaco les bat,
ils font un match contre Guingamp.
Ah mais Guingamp ils sont relégués, mais ils ont au moins assez de qualité pour accrocher.
Guingamp, tu rigoles, ils sont apathiques. Guingamp, c'est des zombies sur le terrain. Moi je pense que Amiens, le match contre Guingamp, c'est un match qui est plus abordable et je les vois finir au moins avec 38 points. Je pense que c'est l'équipe au contraire qui est la plus sûre, tu vois. C'est vraiment entre Dijon, Caen et Monaco. Amiens, je suis d'accord qu'ils sont pas dans une excellente dynamique et même je trouve que ça serait un petit peu mérité parce que Pélissier, il s'est lui aussi un petit peu fait dessus avec sa composition d'équipe ce soir. Mais quand même, ils ont des points d'avance et ils ont un calendrier qui est quand même plus abordable que les autres.
Voilà, puis moi je pense juste un petit point, je pense que on va le faire comme Amiens et on va fêter ça à la maison du whisky.
Exactement. Allez. Ben Jean-Marc, je pense
à
que
consommer avec modération.
Je pense que Jean-Marc ce sera le premier à vouloir fêter ça si Amiens se maintient en Ligue 2.
Merci Benoît. Il fait ça avec un canet, OK.
Comment?
Ouais.
Il fait ça avec un canet.
Et tu sais qu'en plus
c'est pas raciste.
Ils vendent du calva, je pense aussi, du très bon calva.
Bah, écoute, on va aller faire un petit tour là-bas.
Bonne soirée Benoît, bonne soirée.
Salut,
merci
Benoît,
à bientôt.
Bonne
ciao Benoît.
Ciao.
C'est fini au rugby, le barrage de Pro D2 entre Bayonne et Nevers, Paul Lafitte.
Oui Nico, qualification de l'aviron bayonnais fort logiquement à domicile face à Nevers, 32-26 le score final, une pluie d'essais ici à Bayonne, 4 essais bayonnais, 4 essais pour l'équipe de Nevers qui aura joué pendant 71 minutes à 14 contre 15 bayonnais, mais finalement la logique aura été respectée. Donc Bayonne rejoint Oyonnax pour la première demi-finale, ce sera samedi prochain. Ce sera sur la pelouse synthétique d'Oyonnax. Pour la deuxième demi-finale, Brive, qualifié avec sa place de numéro 1 dans le dos, attendra demain le barrage qui aura lieu entre Vannes et l'équipe de Mont-de-Marsan. Donc dans ce sprint final de Pro D2, les Bayonnais tirent les premiers et se qualifient pour les demi-finales donc et rejoignent Oyonnax. Victoire finale des Ciels et Blancs de Yannick Bru, 32-26 ici à Jean Daugé.
Merci beaucoup Paul, bonne soirée à toi. On va aller faire un petit détour par Madrid, retrouver Greg Salio où ça joue entre Tsitsipas et Nadal, demi du Masters 1000 de Madrid.
À 7-0 donc pour Stefanos Tsitsipas, le jeune grec est entré dans le top 10 il y a pas très longtemps, 6-4, et dans le deuxième set Rafa Nadal fait la course en tête 3-2, mais toujours pas de break hein. Il n'arrive pas à faire la décision, il n'arrive pas à endiguer l'agressivité de Stefanos Tsitsipas qui joue merveilleusement. Je rappelle que Rafa Nadal n'a pas gagné le moindre tournoi sur terre hein, depuis que la saison a été lancée, battu à Monte Carlo par Fabio Fognini, battu à Barcelone par Dominic Thiem. Ça ferait évidemment jaser s'il venait à s'incliner ce soir.
Merci beaucoup Eric. Dans quelques instants, Fabien Mercadal sera en direct avec nous dans l'after, l'entraîneur du Stade Malherbe de Caen qui s'est imposé 3-2 face à Reims. On vous attend au 32-16 supporters de Caen avec Jonathan Macardy et Kevin Diaz. À tout de suite.
RMC l'afterfoot, Nicolas Villas
en compagnie de Jonathan Macardy et de Kevin Diaz. Tiens, en attendant Fabien Mercadal, hein, qu'on attend d'un moment à un autre. On vous rappelle, hein, victoire de Caen 3-2 face à Reims. Monaco qui a perdu 1-0 à Nîmes. Et autre match important pour le maintien, c'est Dijon. Dijon qui s'est imposé 2-1 face à Strasbourg. Dijon qui est 19e. 2 points de retard sur Caen Barragiste. 2 points de retard sur Monaco qui est 17e donc. Et Dijon qui restait sur 2 défaites, qui se relance. Alors, pénalty de Julio Tavares à la 40e. Il avait pas marqué depuis la deuxième journée, hein, le Capverdien. Ajor qui a égalisé à la 64e et Kwon dans le temps additionnel qui a donné la victoire à Dijon finalement dans ce match, avec une équipe de Strasbourg qui elle aussi un peu comme Reims d'ailleurs hein, est un peu en roue libre hein, cette fin de saison aussi hein.
C'est miraculeux hein, le but dans les derniers instants, parce qu'au final sur le match c'était pas la qualité entre les deux équipes, c'était pas un match qui nous a vraiment fasciné, qui a vraiment été extraordinaire. Après Dijon, moi je pense que c'est quand même une des équipes les plus faibles du championnat. Il y a pas grand chose, t'as Sliti qui est un bon joueur, mais à part ça qui prend le jeu à son compte, quel joueur est capable de créer des différences, on n'a pas beaucoup non plus. Et voilà, ben écoute, c'est un but qui est hyper important, le scénario est beau, mais je pense quand même que ça va être difficile pour eux de s'en maintenir, parce qu'en termes de points ils sont quand même le classement ne ment pas. Tu regardes le calendrier à venir avec notamment le match contre le PSG, c'est important, mais je sais pas si ça suffira.
Ouais, c'est pas facile pour Dijon dans cette fin de saison, même si on peut quand même louer on a parlé de qualité mentale pour cette équipe de Caen. C'est un peu pareil hein, avec cet entraîneur qui est Camboiré, qu'on connaît bien, qui est un entraîneur qui lâche rien, et on voit que ses joueurs non plus sur le terrain ne lâchent rien. Et donc, comme l'a dit Jonathan également, c'est vrai qu'ils ont un calendrier difficile. Mais bon, sait-on jamais, aujourd'hui, on sait que le Paris Saint-Germain peut laisser échapper des points. Mais bon, ça va être quand même très difficile.
Il y aura beaucoup
pour
de joueurs absents côté parisien hein, face à Dijon.
Et
Marquinhos a pris un rouge aujourd'hui, par exemple. Il est venu se rajouter à la liste. Il y aura pas Neymar qui est suspendu.
Il y aura Thiago Silva.
Mbappé devrait être de retour, mais ils manqueront beaucoup de joueurs hein, côté parisien face à Dijon.
Sur le match de soir, on peut saluer. Je crois que c'était le 500e match de Ligue 1 de Florent Balmont.
Ouais.
qui a fait lui pour le coup, qui pour le coup lui a, voilà, il a fait son match. Après, vous, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense que c'est trop tard pour Dijon. C'est une victoire qui maintient l'espoir, mais je vois pas comment ils peuvent s'en maintenir.
Bah tu joues Toulouse la dernière journée, tu vois, t'es pas.
Mais ils sont en retard par rapport aux autres, Nico.
Ouais, ouais, 34 points. Bah il faut que les autres perdent, quoi. Faudrait que les autres perdent, mais tu crois pas non plus à Dijon, toi?
Non, moi franchement, j'y crois pas. Hein. J'ai parlé de Amiens, de Dijon. C'est vraiment les équipes qui, pour moi, sur la saison.
Amiens, t'as pas le droit. Vous avez pas le droit de dire ça, Damien. Je suis désolé parce que c'est vrai que le début de saison a été catastrophique.
Amiens qui a fait 0-0 face à
Et on était tous unanimes pour dire quand on débriefait leur match dans les week-ends pour dire que depuis qu'il était passé en 4-4-2, c'était pas mal, il y avait du jeu, c'était solide derrière.
Ça avance pas.
Il y avait un bon milieu de terrain.
Regarde, après sur les deux derniers matchs, c'est une victoire, une défaite et 8 nuls.
Bah oui, mais après ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des blessés. Il a notamment eu Godos qui a eu pas mal de pépins, qui est quand même un joueur qui apporte beaucoup de choses à cette équipe. D'ailleurs, Amiens l'attend toujours Godos, mais bon, bref, c'est une petite dédicace pour bon, peu importe, vous avez pas compris. Konaté a aussi manqué, a été suspendu.
Oui, mais
il y a quand même eu, il y a quand même une série de blessures.
Je t'ai dit la même chose pour Monaco. Je t'ai dit la même chose. Même si Monaco est inexcusable. C'était la même chose pour Monaco. Oui, mais au niveau des blessures, c'est pareil.
Ouais, les gars, priorité au direct. Chose promis, chose due. On vous l'a promis. Victoire de Caen 3-2 face à Reims ce soir. Fabien Mercadal, l'entraîneur de Caen, est en direct avec nous dans l'after. Bonsoir, Fabien.
Bonsoir à tous.
Merci d'être avec nous. Bravo pour cette victoire, Fabien.
Bah, c'est gentil. Elle nous fait du bien.
C'est vrai que la série est belle, là, Fabien. Quatre matchs en défaite, trois victoires, un nul. Qu'est-ce qui a changé, là? C'est quoi le déclic, là? Qu'est-ce qui se passe à Caen, là, depuis quatre matchs?
Même avant quatre matchs, hein, on a cette victoire à Monaco, là. Ouais. Voilà, qui était, celle-là, on peut l'admettre volontiers, un peu miraculeuse, mais, qui nous a permis de penser que peut-être on avait quelque chose qui allait nous empêcher de mourir. Et puis il y a aussi l'histoire du club qui fait que les fins de saison sont souvent favorables pour ce club-là. Voilà, donc évidemment on s'accroche à tout ça. Et puis après on doit l'admettre, même si vous le connaissez pas bien, mais le discours de Roland, voilà, qui nous fait aussi, qui nous a amené de la fraîcheur, et on est très heureux de pouvoir participer à ce fin de championnat avec lui.
Alors justement, Fabien, on est content que tu sois avec nous en direct dans l'after. C'est sûr que Roland, bon, il est à la maison sur RMC. Bon, toi et moi, on se connaît depuis le temps de Dunkerque en national, etc. aussi. Comment t'as vécu, toi, l'arrivée de Roland à Caen, justement?
Bah, très bien, d'un point de vue technique. Roland, c'est une. Je me manque pas de son profil physique, hein, mais c'est une belle protection. Ouais, vous avez Roland. Voilà. Non, mais d'un point de vue médiatique, c'est quelqu'un qui est, voilà, qui est un expérimenté, puis qui a ses connaissances médiatiques. Et puis, ça me permet d'être concentré. J'en avais besoin. Voilà, un petit peu. Ça me permet d'être concentré sur ce que j'aime le plus, c'est-à-dire sur l'aspect football. Et voilà, et puis c'est vraiment, j'allais le dire, un coéquipier pour moi, avec qui j'ai beaucoup de plaisir à jouer toutes les semaines. On regarde les matchs ensemble, discuter football, on s'enrichit les uns l'un l'autre. Voilà, c'est un grand plaisir.
Fabien Mercadal est en direct avec nous dans l'after. Jonathan Macardy, une question pour toi.
Oui, Fabien, bah vous parliez du terrain, c'est ce que vous intéressait le plus. Moi, la question concerne le terrain aussi. C'est ce soir, je vous ai trouvé particulièrement plus offensif. J'avais trouvé que ça faisait un moment qu'on vous avait pas vu créer autant de jeux que sur ce match-là. Il y a eu des choix qui ont été forts dans le 11 de départ, avec un milieu de terrain qui était différent, Raoui qui a réincorporé le 11. Et il m'a semblé que vous avez été beaucoup plus ambitieux sur ce match-là que dans les autres matchs, même si vous les aviez aussi gagnés. Pour la fin de saison, vous, quelle est votre optique? Comment vous voulez aborder les deux derniers matchs? Est-ce que c'est plus comme ça? Est-ce que c'est plus un petit peu sur le reculoir comme contre Guingamp?
Ouais, il y a deux questions. Alors la première, c'est que évidemment, on était obligé de passer par les matchs un peu plus structurés, notamment contre Dijon et contre Guingamp. Bah, c'était ce qu'on évoque souvent, les matchs de la peur. On savait qu'il fallait pas les perdre, gagner Dijon, mais qu'il fallait surtout pas perdre ces matchs-là. Et puis en ayant réussi cette stratégie, on pouvait ensuite évidemment s'orienter sur autre chose. Aujourd'hui, on joue une équipe qui, pour le classement, ne joue plus rien. On avait envie de peser sur eux, tenter de marquer assez vite ce premier but. On savait qu'ils venaient de prendre 3-0 contre Nîmes et qu'ils avaient certains doutes. Voilà. Donc c'est pas les mêmes matchs. La semaine prochaine, on va aller à Lyon.
Ouais, ce sera pas pareil.
Voilà, on va tenter de résister, puis de les piquer dès qu'on peut. Et ça, c'est certain. Et puis après, on aura le match de Bordeaux qui va être pour nous une finale, quoi, devant nos supporters. Ben là, on va tenter d'enflammer ce match-là.
Je sais pas. Je pense que ça vous aura pas échappé, mais c'est au moment où vous sortez Raoui pour faire entrer un défenseur, c'est là où ça commence un petit, vous fléchissez un petit peu.
Bah, ce qui est dommage surtout, Fabien, c'est qu'il y a ce but marqué par Zanelli en toute fin de match, péno pour Reims. Et sinon, jusque là, à la différence de but, bah, c'était kiff kiff avec Monaco, quoi. Parce que là, c'est, ça se joue à un but près pour l'instant,
ouais,
au classement.
Ouais, c'est super serré. C'est vrai qu'on on a des regrets, puis on a des regrets aussi parce qu'on a des possibilités de marquer le quatrième but. Voilà. Après, concernant les coachings, les trois coachings ont été faits, sur des blessures. Donc, c'est assez rare. Ouais. Voilà, c'est des, Kaoui avait un problème, au bassin, dès la mi-temps, et, Imoru a une mauvaise sensation aux ischios, et puis Chukwunte qui a fait encore un gros match aujourd'hui.
Ouais, il a pesé, hein.
Ouais, c'est quelqu'un qui est vraiment pas forcément reconnu à son juste niveau, mais qu'est-ce qu'il est précieux ce garçon-là, et évidemment ces coachings-là qui n'ont pas forcément été tactiques n'ont pas forcément amélioré l'équipe.
Fabien Mercadal en direct avec nous dans l'after. Kevin Diaz a une question pour toi, Fabien.
Ouais, justement, Fabien, au niveau du jeu, est-ce que vous pensez pas que c'est en allant à Lyon avec un peu d'ambition que vous arriverez peut-être à aller chercher au minimum un point, voire pourquoi pas les trois? Parce que de toute façon, eux, ils vont attendre que vous les attendiez pour le fait. Et donc, si vous arrivez à sortir un peu et les piquer en contre, voire faire un peu plus et leur montrer que vous êtes une équipe qui joue le maintien mais qui avait quand même plus de qualité, est-ce que ça les surprendrait pas encore plus, les Lyonnais?
Ah, mais peut-être qu'on a cette idée là mais je vais pas vous le dire.
Ah, okay.
parce que tout le monde écoute RMC et donc forcément les Lyonnais vous écoutent. Non, on va mettre quelque chose en place, on y a déjà pensé pour gêner cette équipe de Lyon. Ouais. Mais on y va avec de l'ambition mais beaucoup d'humilité parce que c'est Lyon.
Parce que dans les deux cas, Fabien, les deux équipes auront quelque chose à jouer, hein. Ah, Lyon devra protéger sa troisième place. Vous devez prendre des points, donc ça risque d'être un match qui sent un petit peu la poudre. Hein.
Ah, ça va être un gros match, mais moi je vis mon métier d'entraîneur pour coacher ce genre de match-là, donc je vais pas le regretter maintenant.
Non, mais je vous disais juste ça parce que c'est vrai que c'est une équipe de Lyon qui, lorsque l'équipe adverse tente peu, au final eux ils sont à l'aise parce qu'ils viennent par vague, et là c'est difficile pour l'équipe visiteuse de les contenir. Par contre, lorsqu'une équipe montre de l'allant, va vers l'avant et leur fait du mal, ils peuvent aussi avoir leurs supporters contre eux et être un peu plus en difficulté.
Ouais. Bon, après il y a une composante qu'on n'a pas, c'est que ils n'ont pas joué encore ce week-end, et je pense que le résultat de ce week-end va aussi orienter les supporters, les joueurs. Voilà, ils peuvent arriver avec une grosse confiance, comme arriver avec beaucoup de doutes suivant le résultat de demain.
Fabien, est-ce que tu te mets déjà, tu vas me dire que non, que c'est pas la priorité parce qu'il reste encore deux journées, mais est-ce que tu sais déjà ce qui va être de toi dans quelques semaines finalement?
Non, c'est pas la priorité, il reste encore deux journées. c'est bon, ça te va. Non, j'ai vécu pas que des bons moments depuis que je suis ici, mais je les vis, je les savoure, je prends du plaisir, je suis concentré sur ces matchs-là. C'est vrai que c'est un discours peut-être commun, mais voilà, je suis concentré que sur ça, sur l'équipe. Si je l'étais pas, j'aurais beaucoup souffert, vous le savez. Donc voilà, je suis concentré sur le jeu, sur ce qu'on peut faire.
Le maintien, ouais.
En tout cas, félicitations à vous parce que avec l'aide de Roland Courbis, mais je pense à vous en particulier, ça doit pas être toujours facile médiatiquement d'assumer ce fait d'avoir un deuxième entraîneur et vous le faites parfaitement.
Est-ce que vous serez prêt à repartir une saison comme ça en binôme?
Alors, pour répondre à la question présente, c'est sûr que j'ai un profil qui plaît pas forcément parce que je viens du milieu amateur.
Voilà. À nous, vous nous plaisez. Hein.
Ouais, non, je sais qu'à vous, vous plaît, mais bon,
c'est nous les Pélissiers, tout ça, on les kiffe.
Je sais que toi, tu kiffes ça, mais voilà, on existe aussi, mais peut-être qu'on est pas assez médiatique, j'en sais rien, mais on sait que si tu as des résultats, ça va bien. Si tu as pas de résultats, tu te fais massacrer. Ça, je le sais. J'en ai pris conscience, mais je le savais avant de m'engager dans cette saison-là. Après, de là à penser que je pourrais faire une seconde saison comme ça, j'ai pas eu le temps d'y réfléchir pour être vraiment clair, parce qu'on est engagé dans une sacrée course. Ah ouais, mais c'est pas la tête dans le guidon, c'est jour et nuit. Ouais, c'est jour et nuit avec Roland, c'est jour et nuit avec Roland en plus.
Tu passes même tes nuits avec lui?
Non, on regarde les matchs ensemble, mais Roland, je l'adore. Vous le savez que je l'adore, hein.
Bah, lui aussi.
Voilà, mais des fois il te prend de l'énergie aussi, hein, donc voilà, c'est j'ai pas le temps de me concentrer sur autre chose.
C'est que toute ta phrase là hors contexte, elle est vachement chelou, hein.
Ouais, remets-toi dans le contexte, s'il vous plaît, parce que
s'imaginer des choses. C'est les mœurs de Roland, donc tu fais que confirmer ce que nous savions déjà.
Non, c'est vrai qu'il est inquiétant des fois. Non, mais c'est un véritable passionné de foot, comme moi. J'ai pensé la dernière fois, je me disais, dans 20 ans, est-ce que moi j'aurais gardé la même passion de ce sport? C'est sûr. De ce milieu, je pense pas. Mais de ce sport,
Ah ouais.
Ouais, ouais. Mais lui, on dirait qu'il a 35 ans. Hein,
voilà. Mais qu'est-ce qui te plaît pas dans ce milieu, justement?
Ouais, c'est un petit peu tu sais, c'est les jeux du cercle un peu, voilà, les
joueurs. Faire de la politique un peu, tout ça?
Non, c'est pas ça, c'est quand,
c'est les médias, les supporters, la direction?
La faiblesse de l'être humain, parfois. Tu sais, quand tu sens que quelqu'un est touché, on va l'écraser. Moi, j'ai pas été éduqué comme ça. Chez nous, on aide les garçons en difficulté, voilà. Et là.
Tu parles des médias ou de ta direction?
Non, je parle pas de ma direction parce que.
Non, les gens autour, je pense.
Ok. Dans l'ensemble, voilà. Ouais,
bon, par contre, ça, Fabien, on est d'accord que c'est au niveau professionnel, mais c'est aussi au niveau amateur, hein.
Oh, ah oui, non, mais c'est à tous les niveaux. J'en ai conscience. Après, c'est un sport populaire aussi. Ouais. Peut-être que c'est ce que parfois les gens veulent entendre, donc il faut l'admettre. Mais voilà, la question que je me pose, c'est la seule. Est-ce que j'aurai autant cette passion dans 20 ans? Comme Roland, je suis pas sûr.
Merci beaucoup en tout cas, Fabien, d'avoir été avec nous. Encore bravo et merde à toi pour la fin de saison. Et à Roland.
Et bravo pour ce que vous faites parce que j'écoute RMC.
Ah bah c'est gentil.
Allez, ça va. Merci. Toute la journée avec Roland.
Parce qu'il touche des royalties en fonction de l'audience.
Ah, mais il ne connaît que coloris.
Il a l'iPhone branché sur RMC toute la journée.
En même temps, c'est comme ça qu'il palpe aussi.
C'est ça. Ouais, c'est vrai.
Merci beaucoup, Fabien. Merci d'avoir été avec nous. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Voilà, il est frais, Fabien Marcanal.
Ah, c'est bon ça. C'est ça qu'on aime.
Oh là, qu'est-ce qui se passe, Jérôme Thomas? Balle de 7 pour Nadal, Eric Salio.
Et c'est fait, un 7 partout. Voilà. Enfin, Nadal revit.
Ramos.
Je vous avais laissé à 2 partout au deuxième. Hein. Et il vient d'aligner 4 jeux face à Stefanos Tsitsipas, qui a baissé un peu physiquement, peut-être mentalement aussi, parce que c'est tellement dur de résister à un garçon comme Nadal. Donc un 7 partout, 6-4 Tsitsipas, 6-2 Nadal. On va débuter le troisième. Et l'horloge est à 1h34. Hein.
On va y revenir dans quelques instants également. Le même bandeau que Neymar, disait Kevin Diaz. Nous, on revient dans quelques instants avec un homme qui a aujourd'hui joué son 500e match de Ligue 1. Florent Balmont sera en direct avec nous dans l'after dans quelques instants. À tout de suite.
RMC, l'after foot.